Vous écoutez, on lit pour vous.
Votre téléphone ne vous écoute pas, sauf que... Un texte d'Alain McKenna, paru le 9 octobre 2024 dans la presse. Devant son garage, votre voisin vous vante les mérites de sa nouvelle voiture. Le lendemain, des publicités de ce modèle apparaissent sur les sites que vous visitez. Pas de doute, votre téléphone vous écoute. Est-ce possible? En un mot, non. Cette idée a la vie dure. Les téléphones et des applications comme celle d'Amazon ou de Facebook écoutent nos conversations. Selon qui vous êtes, cela peut vous faire peur ou cela peut vous réjouir. En marketing, pouvoir espionner ses clients potentiels, ça vaut cher. Encore à l'été 2024, des médias américains et européens se sont emballés en découvrant une nouvelle à ce sujet qui a été publiée initialement au mois de décembre 2023. Il faut dire que l'image coiffant l'article attire le regard. Elle a été repiquée d'une présentation de type PowerPoint, apparemment utilisée par le géant médiatique américain Cox Media Group, CMG. C'est vrai, peut-on y lire, vos appareils vous écoutent. Avec l'écoute active, CMG peut désormais utiliser les données vocales pour que vos publicités ciblent exactement les gens que vous désirez. CMG présentait Écoute active à des annonceurs régionaux pour tenter de leur vendre de la publicité sur son réseau. CMG a, finalement, réagi à la fin de septembre 2024. Nous n'avons jamais écouté de conversation et n'avons jamais eu accès à rien d'autre que des données anonymisées, chiffrées, agrégées, provenant d'un fournisseur tiers et qui servent pour du placement publicitaire, a déclaré l'entreprise. Il faut dire qu'entre-temps, Google a coupé ses liens avec CMG, n'appréciant pas sa façon de présenter ses outils de ciblage. Ce que CMG a dit, c'est ce que disent souvent des vendeurs, de l'esbrouffe. Car ce que CMG fait réellement est si répandu que c'en est banal. Elle achète de firmes spécialisées des données vocales collectées, puis anonymisées et combinées entre elles, tirées de plusieurs sources, comme des assistants vocaux, l'assistant Google sur les téléphones Android et Alexa sur les enceintes Echo d'Amazon. Techniquement impossible. Ces données ne sont pas collectées à l'insu des utilisateurs, dans la mesure où c'est indiqué dans les conditions d'utilisation des appareils électroniques concernés et modifiables dans leurs réglages. Il est toujours possible de refuser que ces données vocales soient collectées. Des experts ont par ailleurs conclu, après avoir analysé le cas de CMG, qu'il était techniquement impossible qu'à l'insu de son propriétaire, un téléphone enregistre, puis transmette à un tiers, via les ondes numériques, la totalité des conversations que celui-ci peut tenir chaque jour, tous les jours. En fait, ces mêmes experts arrivent à la conclusion que ce serait bien inutile de le faire. Les autres données collectées sur les téléphones sont si efficaces pour deviner le comportement des consommateurs qu'il est tout simplement inutile d'ouvrir les micros en permanence. Sans avoir écouté votre conversation, le téléphone de votre voisin sait, à partir de ses données de localisation, qu'il a visité son concessionnaire quelques jours plus tôt. Il peut déduire quel véhicule il a acheté par les pages visitées sur le site web de son constructeur et de son assureur. Il peut dire si le véhicule est électrique ou à essence, vu les arrêts effectués pour faire le plein. Votre téléphone, lui, sait que vous étiez récemment au même endroit que votre voisin et sa voiture, à partir des données de localisation de vos réseaux Wi-Fi respectifs. Il est si facile de déterminer l'adresse exacte des réseaux Wi-Fi pour la maison à partir des appareils mobiles qui s'y connectent. De son côté, le concessionnaire ou le constructeur cible un public qui vous ressemble drôlement. Votre voisin et vous avez des résidences de valeurs similaires. Vous faites probablement le même genre de salaire et avez presque les mêmes dépenses. Vous avez le même code postal. Le fait d'avoir été en présence dudit véhicule fait de vous une meilleure cible publicitaire encore. Vous l'avez déjà vu. Ce que votre téléphone sait, si vous vous sentez espionné, c'est que la machine publicitaire fonctionne à merveille. Et ce n'est pas fini. Le site spécialisé en cybersécurité Cyber News vient d'analyser le nouveau Pixel 9 de Google, un modèle phare du système Android. Il collecte beaucoup d'informations. Toutes les 15 minutes, il transmettrait à Google la localisation, l'adresse courriel, le numéro de téléphone et l'état du réseau, la liste des applications installées, les données de reconnaissance des visages, et plus encore. Il ne partage que des données sonores liées à la recherche vocale. Autrement dit, le Pixel 9 sait presque tout sur son propriétaire. Mais il n'écoute pas vos conversations. C'était « Votre téléphone ne vous écoute pas, sauf que… » Un texte d'Alain Mekena, paru le 9 octobre 2024 dans la presse.
Les petits rois du ballet. Un texte de Caroline Touzin, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. Concentré à la tâche, Dave insère minutieusement un ruban de tulle coloré dans un chausson de ballet autographié par un danseur professionnel. Le jeune homme de 27 ans met de côté l'objet lorsqu'il est satisfait du résultat. Puis, il pige dans le sac de chaussons posé sur sa table de travail et répète les mêmes gestes. « Bravo, Dave !» lance l'éducatrice spécialisée, Athénée Carillo. Après une quinzaine de minutes, le jeune déficient intellectuel s'arrête de travailler et se met à se balancer de l'avant à l'arrière sur sa chaise en émettant des sons graves. Des notes de piano provenant d'un studio de danse à l'étage au-dessus, traverse la pièce. Nous sommes dans le salon des Petits Rois, de la fondation du même nom, dans l'immeuble des Grands Ballets canadiens, situé au cœur du quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal. Dès le début du mois de septembre 2024, 8 Petits Rois et Petites Reines travaillent ici à temps plein, au milieu de danseurs professionnels et d'artisans, l'atelier de costumes des grands ballets étant l'un des plus gros de la métropole. Dans la lumineuse cafétéria de l'organisme culturel, le matin du passage de la presse, le groupe de nouveaux employés croise de jeunes danseurs venus remplir leurs bouteilles d'eau avant de retourner s'enfermer dans leur studio, jouxtant l'air commune. Ils sont gracieux, même habillés de banals survêtements de sport et visiblement dans une forme exemplaire. C'est magique pour nos jeunes de côtoyer cette perfection, animée par la volonté d'être à la hauteur, inspirée justement par le travail de ces danseurs professionnels, ils vont vouloir livrer. S'émerveille la présidente de la fondation Les Petits Rois, Vania Aguillard. Un trou de service à 21 ans. Les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle sévère ou modérée, et leurs familles, se sentent souvent abandonnés par le système lorsqu'ils arrivent à 21 ans. Devenus trop vieux pour l'école spécialisée, mais considérés comme des cas trop lourds pour accéder au marché de l'emploi ou même à un plateau de travail pour personnes handicapées, ils sont condamnés à rester à la maison. Ce n'est pas rare qu'un des deux parents doive alors cesser de travailler, raconte Madame Aguillard, elle-même maman d'un petit roi devenu adulte, Henri-Louis. Et malgré toute la bonne volonté des parents, ces jeunes perdent vite leurs acquis, privés d'activités de stimulation menées par des intervenants spécialisés, activités dont ils ont besoin pour ne pas régresser. Ils sont en quelque sorte condamnés à se bercer devant la télé, alors que ces jeunes sont capables de contribuer à la société, explique Madame Aguillard sur un ton persuasif. D'autant plus qu'au Québec, pour un adulte vivant avec une déficience intellectuelle, le temps d'attente pour accéder à une activité de jour offerte par un CI3S ou un CIUS peut aller jusqu'à 1586 jours, fait valoir Madame Aguillard. En d'autres mots, on parle de plus de 4 ans d'attente pour être admis dans une activité qui n'occupe même pas nécessairement le jeune adulte à temps plein. Des plateaux de travail en entreprise. Face à cette situation inacceptable à ses yeux, Madame Aguillard ne pouvait pas rester les bras croisés. Depuis une dizaine d'années, elle tente d'y remédier en convainquant des entreprises d'ouvrir des plateaux de travail pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle de modérée à sévère et souvent d'autres troubles associés comme l'autisme. Comme les jeunes doivent être étroitement encadrés, la Fondation fournit des accompagnatrices et le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, des éducatrices spécialisées. À l'heure actuelle, près d'une dizaine d'organismes et entreprises, l'Auto-Québec, CAE et Urgence Santé notamment, offrent des plateaux de travail à des petits rois, soit sous la formule du stage, soit comme travail à temps plein, dans la métropole. En moyenne, ils sont 8 jeunes par plateau. Mon rêve, c'est d'en ouvrir 2 nouveaux par année et que le modèle s'étende à tout le Québec, lance Madame Aguillard. Un projet facile. À première vue, accueillir ces nouveaux employés atypiques peut sembler compliqué. Il n'en est rien, assure le directeur général des Grands Ballets canadiens, Marc Lalonde. Au contraire, ce serait plate de ne pas le faire, lâche le gestionnaire. Franchement, ce n'est pas astreignant du tout. Il suffit de leur trouver un local aménagé pour qu'ils se sentent bien et, évidemment, des tâches à la hauteur de leur capacité, explique-t-il. Ici, en plus d'emballer des chaussons qui seront vendus après les spectacles, les jeunes vont déchiqueter du papier, arroser les plantes du personnel administratif ou encore recycler des étiquettes pour l'atelier de costumes, entre autres. Car les grands ballets canadiens ont tout leur personnel. Ce n'est pas de la main-d'œuvre bon marché, précise son directeur général. L'organisme culturel a ouvert ses portes au petit roi, fidèle à ses valeurs d'inclusion, d'ouverture aux différences. De la même manière qu'il offre des ateliers de danse-thérapie ou encore des spectacles décontractés adaptés, entre autres, à une clientèle autiste, avec de la musique moins forte et où le spectateur n'est pas tenu au silence, poursuit M. Lalonde. Au centre-ville de Montréal, il y a assez de bureaux vides. Je ne peux pas croire que d'autres entreprises ne peuvent pas se lancer là-dedans, dit le directeur général en entrevue, en se tournant vers l'une des grandes fenêtres de la cafétéria pour nous désigner les tours commerciales avoisinantes. Une maman fière. Mère de 3 enfants, dont Emma, une petite reine de 13 ans, Lynn Poirier a sacrifié sa carrière pour s'occuper d'eux. C'est l'une de nos principales craintes quand on voit arriver l'âge de 21 ans que nos enfants restent à la maison à ne rien faire et régressent, dit-elle. Aujourd'hui, sa fille est remplie de fierté, et sa mère aussi, de dire qu'elle travaille au Grand Ballet canadien. Impossible, d'ailleurs, de ne pas être attendri lorsqu'on croise Emma dans un corridor des Grands Ballets canadiens. « Ça va? » demande-t-elle en distribuant généreusement les high-fives. La jeune femme n'attend généralement pas la réponse de son interlocuteur. « Ça va? » répond-elle à sa propre question. De quoi redonner le sourire à n'importe quel danseur qui connaît une mauvaise journée en studio? C'était « Les petits rois du ballet », un texte de Caroline Touzin, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.
Mini-maison, des citoyens pressent la ville de Rimouski d'agir. Un texte de Michel-Félix Tremblay, paru le 10 septembre 2024 sur Ici Bas-Saint-Laurent. Une quinzaine de citoyens de Rimouski se sont déplacés à la rencontre du conseil municipal de lundi pour demander à la ville d'autoriser la construction de mini-maisons, yourtes et autres types d'habitations minimalistes sur son territoire. Au micro, le porte-parole du groupe, Tom Birien, a rappelé que ces habitations contribueraient, au même titre que les projets de construction de logements multiples, à endiguer la crise du logement. La ville va amorcer sous peu la révision de son plan d'urbanisme, rappelle celui qui est docteur en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Rimouski, UQAR. C'est donc un bon contexte pour faire changer la réglementation, estime-t-il. Venu entendre la vision des élus sur la question, Delphine Cottier estime que Rimouski traîne de la patte malgré ses engagements environnementaux. On veut bien paraître, on veut être vert, mais on n'est pas prêt à prendre une action qui va peut-être déranger certaines personnes. C'est vraiment décevant, dit-elle. Le maire, Guy Caron, a répondu que c'est la MRC Rimouski-Neigette qui bloque actuellement la ville, mais les choses vont changer très bientôt, promet-il. La MRC serait sur le point de modifier son schéma d'aménagement pour favoriser la construction d'unités accessoires d'habitation détachées, ce que certains appellent des mini-maisons, a expliqué Guy Caron. Une fois cette étape franchie, la ville entend modifier sa réglementation pour faciliter la construction de ces unités. Toutefois, les yourtes demeureraient interdites puisqu'elles ne respectent pas le code du bâtiment. Parmi les possibilités, Guy Caron évoque la construction d'un second bâtiment, plus petit, pour les propriétaires de grands terrains, y compris et surtout dans les quartiers résidentiels. Le gouvernement le permet, mais pour les zones qui sont desservies par les services, rappelle-t-il. Il ajoute que deux secteurs ont aussi été ciblés à Sainte-Blandine et Pointe-au-Père pour construire cette fois des quartiers de mini-maisons. Le problème, c'est qu'aucun promoteur ne s'est manifesté pour les bâtir. Une grosse mini-maison. Actuellement, la ville exige une superficie minimale de 50 mètres carrés pour une nouvelle construction sur un terrain vacant. Dans les faits, elle permet donc la construction d'une grosse mini-maison ou d'une petite maison selon l'interprétation qu'on en fait. Est-ce que cette norme pourrait être abaissée? Pour l'instant, on n'a pas de demande en ce sens, répond le maire. Et si on a un grand terrain avec une mini-maison, ça ne correspond pas à notre intention de densifier la ville, ajoute-t-il. Le projet de vivre dans une mini-maison de 40 mètres carrés en campagne, dans un secteur non desservi par l'aqueduc et l'égout, risque donc de demeurer impossible si l'on se fie aux propos du maire. Il y a des gens qui ont envie d'avoir un projet simple, minimaliste et qui ne coûte pas trop cher. C'est quelque chose qui fait appel à notre génération, déplore Alexis Gagné-Michel, qui espérait des engagements plus audacieux, de la part des élus. La ville a amorcé le processus de révision de son plan d'urbanisme cette année. L'exercice doit durer 3 ans. C'était « Mini-maison des citoyens presse la ville de Rimouski d'agir », un texte de Michel-Félix Tremblay, paru le 10 septembre 2024 sur Ici Bas-Saint-Laurent.
Ma réalité, c'est l'urgence, dit une scientifique qui quitte le comité sur le climat. Un texte d'Alexis Riopel paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. La professeure de biologie Catherine Potvin, une experte de renommée internationale des forêts et du carbone de l'Université McGill, s'est retirée du comité consultatif sur les changements climatiques du Québec, CCCC, à la fin de l'été 2024, après 3 ans d'implication. Elle jugeait que d'y participer était devenu plus frustrant qu'utile. De plus en plus, j'avais l'impression que le processus était très lourd, très complexe, très peu agile, et qu'après, avec chaque rapport, on lance une pierre dans l'eau et on ne sait pas ce qui arrive, déplore-t-elle auprès du Devoir, dans une première entrevue depuis sa démission. Jamais elle n'a eu l'occasion de discuter des recommandations du CCCC avec le ministre de l'Environnement ou des fonctionnaires concernés. Madame Potvin se désole aussi que les travaux du comité ne suivent pas la cadence nécessaire pour décarboner notre mode de vie en temps voulu. On est sur le bord d'une catastrophe climatique et c'est comme si le comité avançait en marchant tranquillement, dit-elle en sifflotant avec ironie. Moi, ce n'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est l'urgence, fait-elle valoir, inquiète. Le CCCC, formé d'experts indépendants chargés de conseiller le gouvernement en matière climatique, a rendu 7 avis depuis 2021. Décarbonation du transport lourd, aménagement du territoire, marché du carbone, biodiversité, etc. 3 de ses membres ont démissionné en 1 an. En août 2023, Pierre-Olivier Pinault, HEC Montréal, partait en qualifiant le comité de « bidon ». Et tout récemment, Catherine Morancy, Polytechnique Montréal, démissionnait en critiquant le manque d'écoute du gouvernement. Viser des changements structurels. À l'occasion de son départ, Mme Potvin ne veut pas discuter des difficultés du CCCC. Elle préfère revenir sur l'avant-dernier rapport du comité, consacré au bilan de la lutte contre les changements climatiques au Québec, publié en juillet dernier et passé sous le radar, hormis quelques articles de presse. Ce qu'on essayait de dire, en restant poli, c'est que la réduction des émissions du Québec, elle est presque nulle. Cela signifie que les actions qu'on a posées ne réussissent pas à juguler le problème, dit la scientifique engagée. Dans ce rapport, le comité appelle à des « changements structurels » qui modifient en amont les facteurs déterminants de la consommation d'énergie et de matériaux. Plutôt que de fournir des efforts pour modifier un comportement dans un domaine particulier, mobilité, habitation, alimentation, etc., on change les forces qui guident la prise de décision. Chez les industriels, le marché du carbone québécois aurait pu engendrer un tel changement structurel. C'était un instrument visionnaire à sa création, pense Mme Potvin. Mais la contrainte financière sur les grands émetteurs ne s'est pas révélée assez forte pour enclencher une véritable transition vers une économie faible en carbone, lit-on dans le rapport. En transport, on ne voit aucun changement structurel non plus, analyse Mme Potvin. On n'a pas d'orientation disant que dans les villes, le piéton et le vélo sont rois, dit-elle. Toute la réflexion garde la prémisse que le déplacement en automobile, c'est le déplacement idéal. La scientifique lance une idée. Plutôt que de subventionner l'achat de véhicules électriques au bénéfice des plus riches, pourquoi ne pas subventionner les vélos électriques? Et pour assurer leur déploiement hors des grandes villes, elle propose la mise en place de couloirs sécuritaires pour les cyclistes dans un rayon de 30 km autour de chaque village. Montrer l'exemple. Dans le rapport du CCCC, on fait grand cas de la création d'un budget carbone pour le Québec. Toutes les émissions de gaz à effet de serre, GES, y passeraient. Un tel instrument existe déjà au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Allemagne. Un budget carbone permet de réaliser un arbitrage des priorités. Il fixe par ailleurs des cibles dans un horizon électoral, soutient Mme Potvin. Jusqu'à présent, on se fixe des cibles très lointaines, comme 2050. Mais ensuite, le gouvernement fait n'importe quoi, parce que les élus savent très bien qu'ils ne seront plus en poste. Depuis 2021, le CCCC a plusieurs fois proposé la création d'un budget carbone, mais on n'a jamais eu aucun retour là-dessus, déplore Mme Potvin. Sur le plan réglementaire, Mme Potvin salue des avancées du gouvernement Legault. Le règlement sur le chauffage au mazout, celui sur le gaz naturel renouvelable, la norme VZE, véhicule zéro émission, etc. Elle appelle maintenant à un ménage dans les lois et règlements existants. Pourquoi ceux-ci compliquent-ils la vie aux villes qui veulent bannir le chauffage au gaz naturel, par exemple? D'autres réformes permettraient de rendre le secteur de l'habitation plus sobre en carbone. Au Québec, de décennie en décennie, les maisons sont de plus en plus grandes, énergivores et gourmandes en matériaux. Une idée serait de réviser la structure de taxation. Actuellement, les municipalités ont tout bénéfice à ce qu'on construise des châteaux parce que les taxes sont plus élevées, dénonce Mme Potvin. Pour venir à bout de l'enflure des besoins en matière immobilière et automobile, l'État devra montrer l'exemple. Pourquoi ne pas réduire la taille de son propre parc immobilier? Dans notre réalité post-pandémique, les institutions ont beaucoup trop de locaux. Avec ces bureaux vides, on pourrait créer plus de logements sociaux. Une autre idée pour rehausser l'exemplarité de l'État? Le gouvernement du Québec promet de réduire les émissions de son parc automobile de 60 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Mais plutôt que de simplement électrifier, il pourrait partager. À la manière de Communauto, il pourrait rendre ses véhicules électriques disponibles à la communauté quand les fonctionnaires n'en ont pas besoin. Malgré ce foisonnement d'idées, le CCCC n'a trouvé que peu d'écho au gouvernement. Et ce, alors même que le Québec a été frappé par des feux de forêt dévastateurs à l'été 2023. C'était une bonne idée de créer ce comité, dit Mme Potvin, mais je ne vois pas les changements qu'il entraîne. Ça n'a pas assez de mordant. Il faudra brasser plus que ça pour que les gens comprennent que le temps presse. C'était « Ma réalité, c'est l'urgence », dit une scientifique qui quitte le comité sur le climat, un texte d'Alexis Riopel paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.